Bonjour et bienvenue sur Radio G. Vous écoutez Il est l'heure Monseigneur, nous sommes le lundi 11 novembre et nous recevons aujourd'hui Catherine Cernet de Iris ainsi que Amélie Lucas, chef de chœur, et Hervé Renoux, président des chœurs des Enjoués. Pardon. On commence tout de suite l'émission avec une petite musique de Édith Piaf et on se retrouve tout de suite après pour un petit reportage sur Iris. A tout de suite.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours.
Sur Radio G.
Il est l'heure, Monseigneur.
Un lundi sur deux à 13h.
Après cette petite pause musicale, retour au studio avec Catherine Cernet de l'association Iris. Bonjour Catherine.
Bonjour Ricardo.
Alors, nous allons écouter un petit reportage sur votre association, oui, qui nous en dit un peu plus.
Oui.
Bonjour John Calves.
Bonjour Pascal.
Fondateur d'une association qui s'appelle l'IRIS, c'était en 2016, co-administrateur actuellement de cette association, une association qui s'adresse aux personnes vulnérables et fragilisées, mais encore.
Exactement, donc IRIS, une association qui est née d'une réflexion de différents professionnels du terrain, du prendre soin, des professionnels qui s'adressent au domicile et qui majoritairement venaient du milieu de la gérontologie. Aujourd'hui, avec un axe personnes fragilisées et vulnérables, puisqu'on se tourne de plus en plus vers les personnes en situation de handicap, la protection de l'enfance, les familles monoparentales.
IRIS, un autre regard pour prendre soin, c'est la baseline, comme on dit, de cette association. En quoi elle apporte un autre regard sur le soin, cette association dont vous êtes co-administrateur ?
L'idée de l'association n'était pas de créer un énième réseau réunissant psychologues, infirmiers et kinés. L'idée, c'était de pouvoir proposer à des personnes qui en ont besoin des pratiques alternatives, sophrologie, médiation, danse-thérapie, théâtre, mais toujours en direction du bien-être et du prendre soin, cette fameuse différence entre the cure and the care, le soin et le prendre soin. L'avantage de cette association, c'est que rien n'est modélisé. On vient répondre à la demande, au besoin, on étudie le besoin et on fait une proposition derrière auprès de ces personnes. Souvent, on oublie trop les dents. Une personne à domicile qui va être en perte de mobilité, il n'empêche qu'au quotidien, si elle n'est pas accompagnée par un service à domicile, elle a un voisin, un ami, un parent qui vient l'aider dans son quotidien. Et souvent, ces personnes-là s'épuisent et c'est important aujourd'hui en France de pouvoir les accompagner pour une prise de conscience de leur situation et là encore dans une notion de prendre soin et de bien-être pour qu'elles puissent accompagner le plus longtemps possible la personne aidée.
Où s'exerce ce soin ? C'est plutôt à domicile, dans le département de Loire-Atlantique ? Voilà, situez-nous un peu géographiquement et précisément où vous exercez finalement votre action.
Alors l'empreinte, elle est régionale. On intervient sur le 44 majoritairement puisqu'on y a notre ancrage. Néanmoins, on actionne beaucoup sur le 85 et d'autres départements limitrophes, le 49 notamment. Et en termes de public, nous travaillons aussi bien au domicile, même si ce n'est pas la majeure partie de notre activité, mais c'est possible, ou alors dans des structures type maison de retraite où on va faire des ateliers, mais aussi des formations qui peuvent être faites aussi bien auprès de travailleurs sociaux ou de professionnels du soin, comme d'aidants familiaux.
Vous pouvez intervenir en entreprise également, je crois.
Exactement. S'il faut créer un module de soins auprès de comités d'entreprise et que ça puisse être une offre qui est faite aux personnes qui sont adhérentes à ce comité d'entreprise, alors que ce soit pour elles comme pour leur famille, personnes vieillissantes par exemple, oui, effectivement, on peut intervenir auprès d'entreprises.
Merci John Calves, fondateur et co-administrateur de IRIS, un autre regard pour prendre soin. Bonne fin de journée.
Merci Pascal.
Alors, vous êtes toujours sur Radio G, il est l'heure Monseigneur. Retour en studio avec Catherine Cernet, nous venons d'écouter John Calves, président de votre association. Nous avons eu pas mal de réponses déjà à nos questions à travers l'interview de John Calves. Mais moi, je voudrais savoir si on devait résumer les actions d'IRIS. Globalement, on dirait quoi ? Que fait IRIS ? Comment en bénéficier ?
Donc, alors, IRIS, on est à peu près une dizaine de membres, c'est vrai, avec des compétences très variées. Donc, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement et l'aide par rapport à des publics dits fragilisés, que ce soit enfants, ados, adultes et bien sûr seniors et bien sûr les aidants. Voilà. On répond également à des appels à projets. En répondant à des appels à projets, on peut être amené aussi à rechercher des structures sur la région Pays de Loire. Donc des structures qui sont donc OK pour être notre partenaire, enfin nos partenaires. Donc ça peut être des maisons, des résidences autonomie senior, des EHPAD, etc.
Et qu'est-ce qui a justifié quelque part la création d'un nouvel acteur de l'accompagnement et de la prise en soin ?
Alors donc c'est le professeur Béru qui est donc le président du Gérontopole de Nantes et qui est aussi gériatre au CHU de Nantes, qui a soutenu cette initiative de création d'une association où on a des compétences innovantes et complémentaires. C'est-à-dire, on vient vraiment en appui du monde de la santé.
D'accord. Vous êtes un peu hors cadre finalement et vous avez fait une plus grande liberté d'action que des acteurs institutionnels.
C'est-à-dire qu'en répondant notamment, enfin pas que ça, mais notamment à des appels à projets, oui, je pense qu'on est souple, on est adaptable. On coopère, on collabore ensemble, on travaille avec une charte éthique, etc.
Et vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 10 membres de différentes horizons.
Ouais, à peu près, ouais, une dizaine.
Vous pouvez nous résumer à peu près justement, enfin tous les corps de métier qui s'y retrouvent.
Il y a une bibliothérapeute, il y a une danse thérapeute, une accompagnatrice transition projet de vie, il y a une diététicienne, une réflexologue, avocat, coach, médiatrice, accompagnement de fin de vie, etc. J'en oublie, désolé les collègues.
On avait compris que c'était très varié et ça doit être riche.
Finalement, votre richesse, c'est la pluridisciplinarité.
Oui, tout à fait, oui.
Et une personne qui vous fait appel bénéficie de tous ces intervenants ou c'est en fonction de la demande, c'est-à-dire si moi je veux uniquement ça, je demande ça ou je pose uniquement mon problème et ensuite vous analysez et vous me dites qui est à même de répondre au problème.
Tout à fait, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous avez une demande, d'accord ? Donc on vous rencontre lors d'un premier entretien pour vraiment cibler votre demande, quitte à vraiment faire une synthèse pour que ça soit bien clair. Et ensuite, par rapport à votre demande, on va vous faire une proposition d'intervention en fonction de vos besoins, c'est-à-dire le jour, la durée, le nombre de participants, si vous souhaitez un ou deux intervenants, etc.
Moi, je vous connais un peu plus.
Ouais.
Dans un autre secteur. Comment vous avez rejoint l'association IRIS, justement ?
Alors, l'association IRIS, c'est une rencontre au Salon des seniors, l'année dernière, au mois de novembre. Le Salon des seniors a lieu à Nantes, à l'espace Beaugeoire. Et puis là, je me suis arrêtée sur le stand d'IRIS, qui était donc présent à ce salon. Et puis, j'ai eu une rencontre avec John, qui m'a laissé l'opportunité donc d'intégrer l'association puisqu'ils n'avaient pas de théâtre, de thérapeute par le théâtre.
John, c'est le président.
Le président.
Et alors, votre activité au sein même de l'association, vous travaillez en relation directe avec le public, en groupe, en individuel. Comment s'opère votre action ?
Alors, j'ai deux types. Pour les membres d'IRIS, vous parlez ou plus ?
Pour le public ?
Ouais, pour le public, on a plusieurs formats. On a le format donc atelier groupe, où on a également des accompagnements individuels. Par exemple, John parlait éventuellement des interventions à domicile. On peut faire également des conférences. On a des conférences qui sont déjà des conférences thématiques actées pour l'association. Donc on est vraiment, on fait vraiment du sur-mesure.
Une dernière question pour moi, c'est concernant votre action territoriale. Aujourd'hui, je crois savoir que vous êtes plus actif sur la Loire-Atlantique. Quel est votre développement d'action dans le Maine-et-Loire ?
Le développement d'action dans le Maine-et-Loire, disons que moi j'habite, Catherine Sarné, j'habite dans le Maine-et-Loire, donc l'objectif, il y a des acteurs, des membres d'IRIS qui sont OK pour venir pour se déplacer dans le Maine-et-Loire, donc à partir du moment où on a une demande en Maine-et-Loire et que les intervenants et les membres d'IRIS sont OK pour se déplacer, on est tout à fait, on se développe sur le Maine-et-Loire.
Alors moi je vais poser la question du coup, justement. On avait compris que c'était sur mesure, donc j'imagine bien que le coût, c'est en fonction de la demande et de l'offre, en fait. Mais est-ce qu'il y a une adhésion à l'association ?
Alors, vous voulez dire pour la personne, le public ?
Oui.
Pas du tout. Là, à partir du moment où... Non, il n'y a pas du tout d'adhésion. À partir du moment où il y a une demande, nous, notre objectif, c'est... Les objectifs de l'association, c'est de répondre à cette demande. Et donc, il n'y a pas de cotisation. Après, il y a un coût d'intervention, bien sûr. Mais voilà.
Et qui est financé comment, du coup ?
Alors, soit il y a plusieurs possibilités. Les membres d'IRIS sont chacun des acteurs libres, on est bien d'accord, libres et solo, ils sont entrepreneurs. Soit, ils interviennent pour leur propre entreprise, soit donc dans le cadre de l'association d'Iris, et là il y a une demande qui a été faite à l'association Iris, du coup c'est mutualisé, la demande est communiquée à l'ensemble des membres d'Iris. Ils répondent, ceux qui sont donc intéressés, qui ont du temps disponible, etc. Et donc ensuite on collabore entre nous pour monter une proposition avec voilà, un contenu à qui on s'adresse, les contenus, qui fait quoi, etc.
Merci Catherine Cerné.
Merci Ricardo. Merci à vous.
On écoute tout de suite une nouvelle version de Toulouse, une version un petit peu africaine qui, j'espère, vous le plaira autant qu'à moi.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église s'est cernée, illumine le soir. Une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, oh ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sur le ventouse. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse.
Les leurs, monseigneur.
Alors, nous venons d'écouter Angèle Kidjo, une reprise de Nougaro. Je vous invite à aller écouter le répertoire d'Angèle Kidjo, qui est une magnifique chanteuse.
Merci Ricardo. Alors, nous recevons à présent les chœurs des enjoués, que nous recevons à travers de Hervé Renoux, président de l'association, et Amélie Lucas, chef de chœur. Vous avez une activité aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de multiple. Le premier facteur de réunion pour vous, c'est le plaisir, j'imagine.
Ce que je vois, en tout cas, quand je dirige le chœur,
c'est que les choristes sont particulièrement contents de chanter ensemble. Et c'est la première chose qui m'intéresse quand je les dirige, qu'ils prennent du plaisir.
Oui, mais c'est tout à fait ça. On prend énormément de plaisir à chanter avec Amélie.
La première idée que j'ai eue en voyant un petit peu ce que vous faisiez, c'était que finalement, votre action est née d'une volonté thérapeutique.
Ah non, c'est fait pour les publics multiples.
D'accord.
En fait. Notre chorale est rattachée à la clinique de l'Anjou, certes, mais en fait, on s'adresse à un public multiple.
Est-ce qu'il y a des critères pour vous rejoindre ?
Pour nous rejoindre, le principal critère, c'est d'avoir envie de chanter et d'avoir envie de s'amuser, d'être bien en groupe, d'amener de la bonne humeur et puis avoir un bon esprit, en fait.
Votre chorale compte combien de chœurs, de personnes ?
Alors aujourd'hui, on est à 83 adhérents, en fait. Donc oui, on a une belle progression à la rentrée de septembre. La rentrée a été bonne.
Et vous arrivez à les faire chanter tous ensemble ou bien vous aviez plusieurs groupes dans ces 83 personnes ?
Non, les choristes chantent ensemble, c'est le principe de la chorale.
Oui.
Chaque pupitre, homme ou femme, travaille ensemble. Parfois, on a des répétitions seules avec moi durant quelques minutes. Mais sinon, le but, c'est que tout le monde apprenne à travailler ensemble.
Et quelle est la tranche d'âge ?
Plutôt population active, un peu de retraités, mais on doit être sur du 30, 55, 60
oui,
ans.
Oui, en gros, c'est ça. Oui, oui.
Le cadet et le doyen ?
Oh là !
De 7 à 77 ans ? Ouais.
J'ai pas recensé tous
20,
les...
22, 23, ouais. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà.
Non, mais il n'y a pas de limite, y a pas de limite d'âge.
Et aujourd'hui, quand vous choisissez un répertoire, est-ce que c'est quelque chose qui est décidé collectivement ? Est-ce
oui.
Que, d'accord. Et quelles sont les orientations, par exemple, pour l'année
Alors,
en cours ?
Alors, chez les Enjoués, on fonctionne depuis plusieurs années maintenant. Les choristes font une liste non exhaustive de titres qui leur plairaient, qu'ils ont écouté à la radio, qu'ils ont déjà entendu ou qu'ils ont découvert dans un recoin de leur grenier. Ils me les proposent. Durant l'été, je travaille sur les partitions, le choix des morceaux. Et à la rentrée, je propose un nouveau répertoire, issu de leurs propositions et de ce que moi j'ai envie de faire avec eux.
Vous venez de dire un mot qui me fait peur, les partitions. Ça veut dire qu'il faut des connaissances musicales hein.
Du tout.
Bon.
Non, la partition sert à se repérer. On n'a pas besoin de savoir si c'est un la bémol ou un do ou dièse, mais savoir qu'on ne va pas chanter le chant, mais plutôt une voix d'accompagnement, un ou un texte complètement différent de ce qu'on entend à la radio, ça permet aux choristes de se repérer plus facilement. Mais de toute façon, sur scène, ils sont sans partition, ils chantent par cœur. Donc,
Et où et comment vous écoutez ?
Ah, vous voulez dire en concert ?
Oui.
C'est ça, mais d'accord.
J'ai laissé en blanc.
Mais pour venir nous écouter, nous produisons sur les scènes locales. Et là, prochainement, ou dans les églises d'ailleurs, prochainement, on chante à l'église Saint-Léonard d'Angers le 24 novembre et le 12 janvier à l'église Saint-Serge.
Et votre public aujourd'hui, il en redemande, il vous accompagne ou bien c'est toujours un public, on va dire, occasionnel et opportuniste
hein. Oh, écoutez, je pense qu'il en redemande.
Là, sur le concert du 24 novembre, on a la chance de chanter avec Chanteloire, la chorale des Ponts de Cé, dirigée par Sandra, et la chorale Coraline de l'hôpital, dirigée par Aurélie. Et du coup, comme avec les filles, on s'entend plutôt bien, on a décidé de monter un concert commun ensemble, donc on va pouvoir mélanger nos publics respectifs et peut-être faire découvrir du coup des nouvelles choses à notre public qui vient nous voir et du coup au public qui vient voir les autres chœurs, leur faire découvrir aussi notre chorale. C'est ça qui nous intéresse aussi dans le chant chorale, c'est qu'on puisse mélanger et rencontrer d'autres gens qui chantent pas forcément les mêmes choses que nous, mais qu'on puisse travailler ensemble, chanter ensemble et passer du bon temps ensemble. C'est toujours le but.
Et pour mieux comprendre, vous dites des répertoires différents. Ça veut dire qu'il y a des chorales qui vont être spécialisées gospel, d'autres qui vont être spécialisées rock, chansons françaises. Quelle est votre spécificité au cœur des Enjoués ?
Alors là, la spécificité, c'est ce que les choristes ont envie de chanter. Donc on est plutôt sur de la variété française très actuelle. Gauvin Serres, Goldman, Morane, voilà, ce Nougaro aussi un peu, mais plutôt des choses que les gens n'écoutent pas forcément ou au contraire entendent beaucoup à la radio et découvrent en chant choral, donc avec une version un peu différente, comme on a entendu la version là.
Vous arrivez justement à transformer les morceaux pour en faire presque des titres originaux ?
Ça dépend de ce que j'ai envie d'en faire. En règle générale, ou du travail qu'on fait avec les musiciens.
Et alors, les musiciens, aujourd'hui, quelle place ils ont dans la chorale ? Combien sont-ils ?
Alors, je travaille avec 7 ou 8 musiciens qui tournent sur mes spectacles, puisque j'ai plusieurs chorales. Mais j'ai souvent un set de 3-4 musiciens qui sont sur scène avec nous. C'est toujours dans l'idée d'accompagner le chœur. On voit d'abord la chorale, les gens viennent pour écouter le chœur. Donc ce qui m'intéresse dans le travail avec les musiciens, c'est qu'ils aient eux conscience qu'on est là pour guider et aider les choristes à se sentir à l'aise sur scène, et en même temps qu'il y ait cette notion de grande famille ensemble et qu'on est là pour vivre un vrai moment unique. Les concerts, c'est vraiment quelque chose de particulier qui n'a rien à voir avec les répétitions.
Alors, c'est en majorité des professionnels ou il y a des bénévoles dans la chorale, justement ?
Ah non, ce ne sont que des bénévoles. La seule professionnelle, c'est Amélie. Et puis, les musiciens qui, de temps en temps, peut-être viennent à nos concerts, ont une activité professionnelle orientée autour de la musique. Mais majoritairement, ce sont quand même que des bénévoles pour nous.
Comptez aujourd'hui combien de bénévoles ?
Ah, mais nous, on est...
Ou d'adhérents ?
D'adhérents, on est 83 aujourd'hui.
Et pour donner envie un petit peu aux auditeurs d'aller vous écouter, quel instrument accompagne les chœurs ?
Alors, pour le concert du mois de novembre, on sera seulement avec un piano, mais ça va être super. Sinon, généralement avec les enjoués, on travaille avec piano, basse, batterie et violon, qui est un instrument vraiment particulier et qui nous aide à enrichir le répertoire et la musicalité des voix, du coup.
Vous me surprenez parce qu'en fait, je pensais que la batterie, c'était l'instrument anti-chorale, finalement. il apporte une rythmique, mais c'est vrai que c'est un instrument qui prend vite de la place, non ?
C'est un instrument qu'il faut savoir gérer si on a un bon percussionniste derrière la batterie, ce qui est le cas. Ce qui est le cas, il faut du temps pour le trouver et je l'ai trouvé.
La perle rare.
Exactement.
Et combien de concerts par an vous produisez ?
Alors,
Ça c'est variable en fait. L'année dernière, on en a fait
5, 6.
Oui, exactement. Après, cette année, on devait pas en avoir là en première partie de saison. Et en fait, on a déjà un programmé au mois de novembre, un autre au mois de janvier.
On nous appelle, on répond présent.
Et sur chaque date, c'est la même programmation ou bien à chaque fois vous arrivez à varier et quelque part les spectateurs peuvent vous suivre et voir évoluer le spectacle ?
C'est le but, pour qu'on puisse garder nos spectateurs, pour garder aussi l'intérêt des choristes de rester dans la chorale et pas chanter toujours la même chose. C'est ça qui nous plaît, de pouvoir surprendre aussi le public dans les chants qu'on choisit, dans le répertoire qu'on a aussi au programme.
Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup, Amélie Lucas et Hervé Renoux. On ira vous voir, ça c'est une certitude. Maintenant, je compte sur vous pour nous faire part de vos dates quand vous voudrez qu'on diffuse les messages.
Avec plaisir.
On écoute une version un peu revisitée de « Non, je ne regrette rien » de Edith Piaf, en version « Attention pour les oreilles », en version « Reggae » par Dan Akil. On se retrouve tout de suite après le morceau pour l'agenda de la semaine. Merci. And my call for the community to sing along with that in one come forward and say, yeah. No regrets at all, baby. We have no fear cause we're right on here. I will be there. Tell them what you got to say, Donna King. Tell them.
No. Oublier.
aujourd'hui, on a forcément de beaux invités et ils ont une date à nous proposer. Nous vous écoutons, Monsieur Renaud.
Alors nous serons en concert le 24 novembre prochain à 15h30 à l'église Saint-Léonard. C'est un concert commun avec les chorales Chanteloire et Coraline. Voilà, on vous attend nombreux à venir nous écouter.
Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a une capacité limitée?
Alors il y a un numéro de téléphone pour les réservations éventuelles. Sinon, on vous accueille sur place, le site. Alors le numéro de téléphone, c'est le 06 50 80 98 95 et le prix des places est à 10€ pour les plus de 8 ans.
D'accord. Pour ma part, je vais faire un tout petit peu de publicité pour l'association France Alzheimer 49.